Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bienvenue sur RCJ en ce mercredi 11 juin, il est 8h.
La matinale info, Elsa Parienté.
Au programme de cette édition, l'actualité israélienne, ce sera avec notre correspondant sur place, Julien Baloul, puis l'invité de cette édition, Sarah Eisenman, présidente de Nous Vivrons. On fait d'abord un tour d'horizon de l'actualité sur RCJ.
Le journal.
La loi visant à dissoudre la Knesset sera présentée ce matin en lecture préliminaire. Le journal du parti du drapeau de la Torah, Yated Nehman, a écrit ce matin que la faction à judaïsme unifié de la Torah votera aujourd'hui à l'unanimité sur le projet de loi visant à dissoudre la Knesset. Israël a expulsé la Suédoise, Greta Thunberg par avion vers la Suède et via la France. Parmi les 12 personnes qui se trouvaient à bord du voilier le Madeleine, 2 Français ont accepté d'être expulsés dès hier, tandis que 4 autres, dont Rima Hassan, ont refusé dans l'attente d'une décision de justice, a indiqué le ministre français des Affaires étrangères à son arrivée à l'aéroport parisien de Roissy. Dans l'après-midi, Greta Thunberg a déclaré que les passagers du voilier avaient été, je cite, kidnappés par Israël en mer lundi matin. La militante est arrivée dans la soirée à Stockholm où à des journalistes qui lui demandaient si elle avait eu peur lors de l'arraisonnement du voilier. Elle a répondu, je cite, ce qui me fait peur, c'est le silence des gens alors qu'un génocide est en cours. Fin de citation. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accueilli chaleureusement le président argentin Javier Milei pour sa 2e visite d'État en lui disant qu'il était un véritable ami d'Israël. Le président argentin a écrit sur X au sujet des sirènes activées à Jérusalem suite aux tirs de missiles depuis le Yémen alors qu'il séjournait dans un hôtel de la capitale. Je vous recommande vivement, lorsque vous réagissez à ce qui se passe en Israël, de vous rappeler que c'est cela que vivent ces gens dans cette situation. C'est ce qu'a déclaré le président argentin sur X. Le Royaume-Uni et l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Norvège ont annoncé des sanctions contre 2 ministres israéliens d'extrême droite accusés d'incitation à la violence contre les Palestiniens. Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ont incité à une violence extrémiste et à de graves violations des droits humains des Palestiniens en Cisjordanie. C'est ce que dénoncent les ministres des Affaires étrangères de ces pays dans un communiqué commun. Prôner le déplacement forcé de Palestiniens et la création de nouvelles colonies israéliennes est effroyable et dangereux, ont-ils ajouté. Ces 2 figures de l'extrême droite israélienne sont désormais frappés d'une interdiction de voyager dans tous ces pays. Leurs avoirs éventuels sont gelés au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Les États-Unis ont condamné ces sanctions. Réaction israélienne, il est scandaleux que des représentants élus et des membres du gouvernement soient soumis à ce type de mesures. C'est ce qu'a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar. Conséquence directe, fin de la coopération entre banques israéliennes et palestiniennes dans le contexte de la campagne de délégitimation menée par l'autorité palestinienne contre l'État d'Israël au niveau international. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a demandé d'annuler l'indemnité accordée aux banques traitant avec les banques exerçant dans les territoires de l'autorité palestinienne, a déclaré le bureau du ministre dans un communiqué. Une commission internationale d'enquête des Nations Unies a affirmé que les attaques israéliennes contre des écoles et des sites religieux et culturels à Gaza constituent des crimes de guerre et, je cite, le crime contre l'humanité d'extermination. Israël a qualifié le rapport de récit fictif sur la guerre à Gaza. Un Pakistanais résident au Canada arrêté en septembre à la demande des autorités judiciaires américaines qui l'accusent d'avoir planifié un attentat contre des juifs à New York a été extradé hier aux États-Unis. Mohamed Shazeb Khan, 20 ans, doit être présenté à un juge à New York ce jour. Il est accusé d'avoir préparé un attentat au nom du groupe État islamique contre des juifs à New York qui aurait coïncidé avec le premier anniversaire du 7 octobre. D'après l'enquête, il voulait se rendre à New York où il avait l'intention de perpétrer au moyen d'armes automatiques et semi-automatique une tuerie de masse en soutien à l'État islamique contre un centre juif à Brooklyn. Le couvre-feu instauré dans le centre-ville de Los Angeles par la maire après plusieurs nuits de troubles et de vandalisme est entré en vigueur mardi soir à 20h heure locale. Des dizaines de manifestants demeuraient dans le centre de la 2e ville des États-Unis à l'heure de cette entrée en vigueur. Des frappes russes ont tué 2 personnes et fait au moins 54 blessés dans la nuit à Kharkiv, la 2e plus grande ville d'Ukraine, au lendemain de frappes similaires qui ont fait 3 morts à Kiev et Odessa. La Russie et l'Ukraine ont procédé hier à la 2e phase d'un échange d'ampleur de prisonniers de guerre, seule avancée concrète de récent pour parler de paix à Istanbul. L'Autriche observe ce jour un deuil national, une minute de silence au lendemain de la mort de 10 personnes dans un lycée de Graz tué par balle par un ancien élève qui s'est ensuite suicidé, un drame sans précédent dans le pays. Parmi les 10 personnes tuées figure un élève français de 17 ans. Les autorités ont par ailleurs fait état de 11 blessés. L'auteur présumé a agi seul et s'est donné la mort dans les toilettes après son crime, selon la police qui s'est refusée à toute spéculation sur le déroulé des événements. Et enfin, interrogé hier soir sur France 2 à la suite du drame aux abords d'un collège de Nogent où une assistante d'éducation a succombé à ses blessures après qu'un collégien l'a attaqué au couteau, le président de la République a promis plus de fermeté. On l'écoute.
Et la réaction doit être très claire. On va intensifier les contrôles, mais surtout renforcer les interdictions. C'est pas possible qu'un enfant, qu'un adolescent ait une arme blanche ou dans la rue ou à l'école. Mais c'est la responsabilité des parents, c'est la responsabilité des vendeurs, mais ça veut dire qu'on va durcir les règles, ça veut dire qu'on va mettre des sanctions massives financières, des interdictions. On ne pourra plus vendre ces armes blanches. Zéro tolérance, on ne doit pas accepter que ça existe. On en est là. Et donc il faut en effet maintenant réagir très fort, très ferme vis-à-vis des familles, de ces jeunes et de tous ceux qui vendent et les mettre face à cette interdiction.
Emmanuel Macron qui a par ailleurs affirmé que la France interdirait les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans si d'ici quelques mois, cela n'était pas fait au niveau européen. 8h06 sur RCJ, reste avec nous. On se retrouve dans un instant, on sera en direct d'Israël avec Julien Balloul.
Message de Hort France. Chers partenaires, experts comptables, entreprises, en versant le solde de votre taxe d'apprentissage aux écoles Hort France, vous soutenez l'innovation, l'éducation et l'avenir de nos étudiants.
Votre contribution fait la différence. Dès le 27 mai, connectez-vous sur la plateforme Soltea et fléchez vers les écoles du réseau Hort France.
Une question ? Appelez-nous au 01 44 17 30 80 ou rendez-vous sur hort-france.fr.
ORT-France.fr.
Merci pour votre engagement.
Je pense que je vais chanter.
Non, mais attention. Ah, c'est moi, attention. Hein. C'est pas la démocratie, c'est une dictature ici. C'est moi qui décide. Hein.
Rire pour changer des vies. Prenez vite vos places pour une soirée exceptionnelle proposée par le FSJU. Samuel Bondy et Friends, avec notamment Samuel Bondy, Fancy Cohan et Vincent Serroussi. Mercredi 18 juin à 20h, Espace Rachi. Un événement solidaire au profit des colonies de vacances pour enfants défavorisés. Soutenu par les tickets vacances du FSJU. Billets sur billetsweb.fr. Bambi, Paris.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info.
8h08 sur RCJ. Dans 48 heures aura lieu la Gay Pride à Tel Aviv, un événement habituellement joyeux et très touristique, mais qui cette année forcément prend une connotation très différente. On en parle avec vous, Julien Balloul, bonjour.
Oui, bonjour. C'est vrai que nous sommes à 48 heures de la Gay Pride à Tel Aviv et vous me disiez, cet événement, c'est en général un événement qui est très festif, qui attire beaucoup de touristes. Enfin, c'était le cas avant la guerre. On se souvient de défilés à Tel Aviv qui a rassemblé plus de 100 000 personnes, des gens qui venaient du monde entier pour faire la fête. C'est plus le cas, évidemment, depuis l'an dernier. Donc l'an dernier, il n'y avait pas eu de défilé à proprement parler. Il y avait eu un rassemblement sur la Taillelette qui était essentiellement un hommage, qui ressemblait beaucoup à Yom HaZikaron, qui était un hommage aux soldats de Tsahal tombés au front, aux soldats de la communauté LGBT, pour rappeler que ben, voilà, les LGBT servent dans l'armée comme tout le monde, aiment leur pays comme tout le monde. Il y avait des histoires bouleversantes à l'époque. On se rappelle de ce couple hein, qui avait... Qui devait se marier juste après le 7 octobre et dont l'un des deux avait été tué au front quelques jours avant et ça avait bouleversé le pays. Donc c'est plus le cas, je vous le disais. Cette année, il y aura bien un défilé, il y aura bien des fêtes, mais le cœur n'y est pas tout à fait. J'ai cette image en tête du pont Yehudit au-dessus de l'autoroute à Tel Aviv, qui a été éclairé aux couleurs du drapeau LGBT. Et on voit au second plan ces tours Azrieli sur lesquelles est écrit tous les jours « Nous vous attendons à la maison avec le décompte des jours de captivité des otages ». Et c'est ces deux messages, si vous voulez, ensemble, qui vraiment, finalement, résument la réalité, à savoir... Il y a ce mois des fiertés, comme on dit, et cette Gay Pride, mais il y a aussi cette guerre que l'on n'oublie pas, et cet espoir, évidemment, que l'on n'oublie pas pour les otages. Au-delà de la situation qui est un peu délicate, on le sait, il y a aussi la situation sécuritaire. Donc, en Israël, maintenant, on vit totalement avec les roquettes, c'est-à-dire que les rassemblements sont autorisés, tout est autorisé. Même il y a eu des grands concerts au parc Ayarkon il y a quelques jours. Il y a eu une sirène, les gens voilà, ne bougent plus. Maintenant, on vit avec, on vit avec le risque parce que l'armée israélienne gère très bien aussi la défense. Mais il y a aussi autre chose qui est important, c'est que la communauté LGBT veut aussi rappeler que voilà, puisque les LGBT sont assez israéliens pour être envoyés au front, pour mourir comme tout le monde, eh bien ils demandent simplement une chose, ils demandent être traité comme tout le monde, ni plus ni moins, c'est-à-dire de compléter l'égalité des droits. Alors en Israël, la situation des LGBT est très bonne, et je peux en témoigner. On a quasiment la quasi-totalité des droits. Je parle évidemment de choses toutes simples comme servir dans l'armée sans avoir à se cacher et être entièrement accepté. C'est quelque chose qui aujourd'hui paraît banal, mais Israël était le premier pays au monde à le faire, dans les années 90, sous Yitzhak Rabin, à permettre aux homosexuels de servir dans l'armée sans avoir à se cacher, bien avant les États-Unis, bien avant la France, bien avant tout le monde. Les mariages de même sexe alors ne sont pas effectués en Israël, mais sont reconnus en Israël. C'est-à-dire que si vous le faites à l'étranger, en Israël ensuite c'est reconnu, c'est noté à votre état civil. La GPA existe en Israël pour tout le monde depuis maintenant les années 90. Elle a été ouverte aux couples de même sexe. Pareil, la PMA existe depuis les années 90. Ça a été ensuite pareil ouvert aux couples de même sexe. Donc il y a une vraie égalité quasi totale des droits en Israël. Et surtout, quelque chose d'important qui est en Israël, qui n'existe pas vraiment à l'étranger, c'est qu'en Israël, pour tout le monde, il y a la culture de l'enfant. La famille, c'est très important, les enfants sont rois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la GPA et les PMA sont arrivés en Israël dès les années 90, c'est parce que les couples religieux, notamment, et les couples hétérosexuels voulaient pouvoir avoir des solutions aux problèmes de fertilité. Et en fait, en Israël, il est jugé légitime que tout le monde veut des enfants, tout le monde veut être parent, c'est dans la culture juive, c'est dans la culture israélienne, c'est dans la culture orientale notamment. Et donc c'est normal que les homosexuels et les lesbiennes veulent aussi avoir des enfants. Et finalement, les familles LGBT en Israël font partie du paysage, font partie de la banalité du paysage israélien. Et c'est quelque chose qui est très différent par rapport à l'Europe, je le vois, parce que donc moi-même j'ai des enfants et je me rends compte que lorsque je vais en Europe et que je parle avec des homosexuels en Europe, ils me disent « bon, t'as des enfants, etc. » C'est quelque chose qui les surprend vachement. Donc c'est une spécificité vraiment israélienne. Donc je vous le disais, c'est une année encore un peu différente. Les touristes ne seront évidemment pas là, et ceux qui seront là, en tout cas, nous aiment beaucoup. Mais évidemment, on ne perd pas de vue la situation.
Et sur un tout autre sujet, les Israéliens raffolent du saumon, et ces saumons sont importés essentiellement à des pays nordiques. Un projet pourrait changer un peu la donne. Pour la première fois, un saumon made in Israël pourrait voir le jour. Vous nous en dites plus.
Oui, absolument. Les Israéliens, c'est un autre sujet, hein, totalement, sans transition. Les Israéliens consomment absolument. Les Israéliens consomment environ 18 500 tonnes de saumon par an. C'est énorme. Le saumon vient essentiellement de Norvège. Et bien pour la première fois en Israël, dans le Nord, un projet a été validé pour construire un parc qui pourra permettre de d'élever des poissons made in Israël. Alors c'est quelque chose d'extrêmement particulier parce qu'il faut que des conditions quand même vraiment particulières pour élever des saumons. Donc c'est une vraie prouesse technologique. Et c'est une vraie prouesse aussi agricole. Ça en fera un modèle, si vous voulez, assez international. Si c'est réussi, ça sera vraiment une grande réussite. Donc ça sera dans la région de Lémec à Mayanot, donc près de Beth Shean, dans le Nord. Et l'initiative, en fait, va utiliser une nouvelle technologie de circulation d'eau qui pourrait permettre d'augmenter la production de poissons sans nécessiter plus de consommation d'eau. Donc c'est vraiment un grand effort pour Israël. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que le but pour Israël, c'est aussi d'être moins dépendant des importations de l'étranger et d'assurer sa sécurité alimentaire, comme Israël assure sa sécurité en eau et en énergie. C'est un beau projet qu'il faudra suivre dans les prochaines années et voir s'il arrive jusqu'à son terme.
Et on n'y manquera pas avec vous, Julien, 8h14 sur RCG. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. L'invité de la matinale, Sarah Eisenman, présidente du collectif Nous Vivrons.
RCG.
y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
Bain et déco.
Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
Bain et déco.
Et si c'était le moment de changer? Nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
Bainetdeco.fr.
Ah, je me sens mieux. Au calme, au chaud. Et puis j'ai vu la différence sur ma facture d'énergie.
Pour moi, c'est le jour et la nuit. J'ai eu l'impression de changer de maison.
Vous avez envie de changer de vie? Commencez par changer de fenêtre. Depuis 25 ans, la Maison de la Fenêtre vous change la vie en vous apportant plus de confort, plus de lumière et de vraies économies d'énergie.
La pose s'est faite en une journée. Hyper pro.
La Maison de la Fenêtre, certifiée Calibat RGE, 01 42 11 03 03 01 42 11 03 03.
Message de Hort France. Chers partenaires, experts comptables, entreprises, en versant le solde de votre taxe d'apprentissage aux écoles Hort France, vous soutenez l'innovation, l'éducation et l'avenir de nos étudiants.
Votre contribution fait la différence. Dès le 27 mai, connectez-vous sur la plateforme Soltea et fléchez vers les écoles du réseau Hort France.
Une question? Appelez-nous au 01 44 17 30 80 ou rendez-vous sur hort-france.fr.
ORT-France.fr.
Merci pour votre engagement.
La 20e édition du Festival des Cultures Juives. Concerts, rencontres, théâtre, expo. Du 15 au 30 juin, découvrez un programme inédit au cœur de Paris. Pour sa soirée d'ouverture, le contrebassiste Avishai Cohen vous donne rendez-vous dimanche 15 juin à 19h dans le cadre intime du Théâtre du Rond-Point pour vivre une expérience musicale inoubliable. Détails et réservations sur festivaldesculturesjuives.org.
L'invité de cette édition ce matin, Sarah Eisenman, présidente de Nous Vivrons. Bonjour.
Bonjour Elsa.
Et merci d'être avec nous ce matin. Le procès de ce viol antisémite d'une jeune fille, d'une petite fille de 12 ans à Courbevoie s'ouvre aujourd'hui. Je voulais revenir avec ce dossier que vous avez beaucoup suivi. Qu'est-ce qui se passe en 2004 à ce moment où vous apprenez justement cet énième drame antisémite?
Je me souviens très bien de cette journée du 19 juin 2024 où en se réveillant, on apprend qu'une petite fille aurait été violée en région parisienne en raison de sa judaïté. Évidemment, on tombe de notre chaise. On est très prudent, nous, en matière d'actes antisémites. Et en fait, quand c'est aussi abject, quand ça dépasse l'entendement, on se dit que ça doit être une fake news et qu'il y a des cinglés qui ont répandu une rumeur qui sera démentie dans les prochaines heures. Et petit à petit, on apprend que cette affaire sordide est de plus en plus plausible. Donc, c'est quand même un poignard dans le ventre, hein. C'est de l'ordre de l'intime. On se projette, nos enfants, nos familles. Et ensuite, nous, en tant que militants, on se ressaisit et on se dit que notre job, c'est d'appeler à une prise de conscience collective. On est en pleine élection législative à cette époque. Et donc, on appelle au rassemblement, place de l'Hôtel de Ville à Paris. Et là, en quelques heures, en deux heures, je crois, on a réussi à réunir 5000 personnes autour du ministre de la Justice, de sénateurs, de députés, d'éminentes personnalités de la communauté, naturellement. Et je crois que ce rassemblement a une double vertu. Un, ça nous a permis de nous retrouver ensemble et on en avait besoin parce que ça dépasse vraiment l'entendement, cette affaire. Et quand on l'apprend, on se sent plus esselé que jamais. Et donc, se retrouver entre gens de bonne volonté, juifs ou non juifs, mais bien déterminés à lutter contre l'antisémitisme, ça nous a fait du bien. Et notre deuxième message à ce moment-là, c'était de dire que non, nous ne nous habituerons jamais à l'antisémitisme et encore moins à cet antisémitisme crasse qui doit être défendu de toutes ses forces par la République et tous ses représentants.
C'était un rassemblement aussi qui avait laissé s'exprimer la colère de nombreux manifestants, en tout cas qui étaient là, qui étaient éreintés, épuisés de cette succession d'actes antisémites depuis de nombreux mois. Le bilan, quelque part, je ne sais pas s'il peut être dressé parce que c'est malheureusement pas fini, mais là, un an après ce drame, sur la prise en considération notamment des pouvoirs publics de l'antisémitisme, où vous diriez que nous en sommes? Est-ce que vous estimez qu'il y a une progression?
Écoutez, je crois que près de deux ans après le 7 octobre, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où ira l'antisémitisme, notamment en miroir avec la fusillade de Washington qui a tué deux juifs à la sortie du musée juif juste parce qu'ils étaient juifs. Et justement, nous, en ce moment, on est en train d'essayer de prendre de la hauteur et de faire le bilan de ces 2 ans d'antisémitisme, surtout suite à la succession d'actes antisémites dont ont été victimes des personnes juives et des lieux juifs ces 2 dernières semaines. Il faut quand même se rendre compte de quoi on parle. Hein. On parle d'étudiants intimidés, d'écoliers harcelés, de synagogues attaquées, taguées, incendiées, du mémorial de la Shoah, le mur des Justes également, qui sont vandalisés, comme les commerces, les rabbins agressés, les femmes comme nos manifestantes qui sont menacées lors de rassemblements pour la défense des droits des femmes. Jusqu'où cet antisémitisme ira? Donc à nouveau, je pense qu'on peut saluer la mobilisation et l'intransigeance des pouvoirs publics en France. Je crois que la France a bien résisté, surtout quand on voit ce qui se passe ailleurs. Et je pense qu'on peut, ouais, on peut se réjouir, ou en tout cas se soulager de cette mobilisation des pouvoirs publics. Mais force est de constater que ça suffit pas, puisque depuis un mois, c'est presque à chaque jour son acte antisémite. Donc jusqu'où? À chaque fois, on fait sauter les digues. À partir de quand on a une prise de conscience collective, finalement, de l'opinion et une sorte de barrage citoyen qui consiste à dire « not in my name », en fait. L'antisémitisme n'a pas lieu de siéger en France, mais c'est certain que la situation est inquiétante, tout en se disant que, et nous, on a toujours cru de cette façon chez nous vivrons, il n'y a que la République qui peut lutter contre l'antisémitisme et protéger les Juifs. Et je crois que la République, dans ce combat-là, est clairement à nos côtés.
L'un de vos slogans, c'est de Nova à Courbevoie. On vous croit justement sur ce « on vous croit ». On a eu encore la preuve à peine hier avant-hier sur le rabbin Elie Lemel, sur la remise en cause, c'est notamment sur les réseaux sociaux, mais du fait qu'il ait ce cocard qui soit apparu plus tôt, parce que voilà, ce sont des règles médicales quelque part, et de se dire justement sur ce « on vous croit », sur la prise en considération par l'opinion publique de la véracité des actes antisémites, là aussi, vous constatez qu'il y a encore un doute qui persiste à chaque fois, à chaque acte antisémite.
À nouveau, il faut être très prudent en matière de dénonciation d'actes antisémites, puisque il est vrai que ces 2 dernières années, on a dû faire face à 2-3 cinglés qui ont jugé utile d'ajouter du drama au drama en racontant n'importe quoi sur l'antisémitisme. Mais ça, c'est un fantasme. Ça veut dire que l'antisémitisme dont on parle, les milliers d'actes antisémites, les 60% d'actes racistes et antisémites, qui touche 0,6% de la population, c'est tristement vrai. Et je comprends que ça puisse agacer les complotistes d'entendre parler d'antisémitisme tous les jours sur les réseaux sociaux, mais moi, ce que j'ai envie de leur dire à ces complotistes, c'est que nous, on est plus agacés qu'eux de vivre cet antisémitisme que de lire cet antisémitisme. Donc évidemment que les victimes, on les croit, évidemment que les victimes, on est à leur côté, c'est ce qu'on a voulu faire, nous, il y a un an, pour cette petite fille de 12 ans qui a été victime d'un viol antisémite à Courbevoie. On a voulu lui dire que non seulement on la croyait, mais qu'on était à ses côtés, qu'on la soutenait et qu'on soutenait sa famille, qu'on partageait sa peine et qu'elle pourrait toujours nous trouver sur son chemin de la réparation et son chemin de la combativité. Et c'est ce qu'on fait avec chaque victime d'antisémitisme, c'est ce qu'on a fait, vous parlez de Nova à Courbevoie, on vous croit, c'est ce qu'on a fait pour dénoncer les violences dont ont été victimes les femmes israéliennes le 7 octobre dernier. Nous, on croit toutes les victimes d'antisémitisme, comme on croit toutes les victimes de racisme. Et en tant que nous vivrons, on est là pour elles, on se battra pour elles. Et aujourd'hui, on pense évidemment tout particulièrement à cette petite fille de Courbevoie, dont le procès s'ouvre aujourd'hui. Cette petite fille qui a été victime du cycle infernal, finalement, où victime d'antisémitisme, elle a eu peur et elle a caché son identité juive. Et en cachant son identité juive, elle a été victime d'agression de la part de ceux qui ont considéré qu'il lui avait menti et qu'il fallait, au nom de la vengeance de la Palestine, lui faire subir les pires atrocités. Donc on marche sur la tête et à n'en pas douter, les peines seront à la hauteur du préjudice et de la violence dont cet enfant a été victime pour justement qu'elle puisse commencer son processus de réparation.
C'est l'une des priorités pour elle et pour tous les Juifs aussi de France de dire aujourd'hui avoir des réponses pénales à la hauteur. C'est à la fois un symbole et quelque chose qui rassure. C'est ça que vous attendez aujourd'hui?
Je ne crois pas que ce soit une priorité. La priorité, c'est que on endigue le plus possible l'antisémitisme en France. Et la priorité, c'est que les Juifs n'aient plus peur d'envoyer leurs enfants à l'école, n'aient plus peur de se rendre dans des restaurants cachers ou de tendance cachère, de se rendre à la synagogue, d'avoir une vie juive en fait. La priorité, c'est d'affronter coûte que coûte ceux qui veulent annihiler la vie juive et la présence juive en France. C'est ça la priorité. En revanche, quand on n'y arrive pas, oui, il faut que la réponse pénale soit à la hauteur, puisqu'on ne peut pas être antisémite en toute impunité en France. Et je crois que c'est ce que doit montrer la justice en prenant les peines qui s'imposent, en condamnant les accusés, les coupables qui mènent la vie dure aux Juifs de France depuis un an et demi. Et ces gens-là, ils doivent comprendre qu'on ne peut pas être antisémite en toute impunité en France. Et les Juifs de France doivent comprendre qu'ils sont protégés par la République et ne doivent plus avoir peur. Alors, c'est un vœu pieux pour le moment, mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir que avec la mobilisation de toutes les bonnes volontés, avec la mobilisation de tous les pouvoirs publics et avec le temps qui passe, on puisse petit à petit reprendre une vie juive. Peut-être pas comme avant tout de suite, mais relativement normal, où on bombe le torse, où on a plus peur en fait de d'être juif en France, pour que peut-être pas demain, mais après-demain, on puisse rebrandir cette fameuse phrase de heureux comme un juif en France. Ça arrivera.
Merci beaucoup Sarah Eisenman, présidente de Nous Vivrons, d'avoir été notre invitée ce matin sur RCJ. 8h25 sur RCJ et on apprend que la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a annoncé ce matin avoir demandé une minute de silence dans tous les établissements scolaires. Ce sera jeudi midi en hommage à la surveillante tuée par un collégien hier à Nogent. C'est vraiment toute la communauté éducative qui est sous le choc et la nation tout entière. C'est ce qu'elle a déclaré au micro de France Inter il y a un très court instant. 8h26 sur RCJ, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À 11h, retrouvez Essentiel avec Sandrine Seban, qui reçoit notamment les frères Nakash pour leur concert le 10 septembre à la salle Gaveau, et Valérie Zarouk pour la pièce Appelez-moi Golda. Réservez vos places pour le 16 et le 17 juin. À midi, on se retrouve pour la suite de l'information. Passez une belle journée à l'écoute de notre antenne.
Vous avez plus de 60 ans et habitez Paris ou l'Île-de-France? Vous avez besoin d'aide pour réparer une fuite, gérer votre administratif, vous déplacer ou vous sentir en sécurité à votre domicile? Le kiosque solidaire vous met en relation avec des professionnels fiables et bienveillants et vous accompagne dans la résolution de vos problèmes du quotidien. Plus de stress, plus d'arnaques. Contactez le kiosque solidaire, service du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, au 01 42 17 10 80. 01 42 17 10 80. Parce que votre confort est au cœur de notre engagement.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info.
Du coup, je pense que je vais chanter.
Non, mais attention, c'est moi l'attention. Hein. C'est pas la démocratie, c'est une dictature ici. C'est moi qui décide. Hein.
Rire pour changer des vies. Prenez vite vos places pour une soirée exceptionnelle proposée par le FSJU. Samuel Bondy et Friends, avec notamment Samuel Bondy, Fancy Cohan et Vincent Serroussi. Mercredi 18 juin à 20h, Espace Rachi. Un événement solidaire au profit des colonies de vacances pour enfants défavorisés, soutenu par les tickets vacances du FSJU. Billets sur billetsweb.fr, Bambi, Paris.
Toi t'aurais voulu jouer Hamlet, mais les propositions qu'on t'a faites, ce sont des grands mélodes d'amour et des feuilletons au kilomètre. Dans ton uniforme de vedette, tu fais des shows et des conquêtes. Tu t'es fait débrider les yeux, mais comment faire pour qu'ils soient bleus? We'll be right back.
vie, un média du Fonds social juif unifié.
Il est 8h30, bonjour et bienvenue sur Radio J, merci de votre écoute. Ce mercredi 11 juin 2025, 614e jour de guerre en Israël et toujours malheureusement 55 otages à Gaza.
Le journal de 8h30 vous est présenté en partenariat avec Progrès Santé, l'école référente depuis plus de 30 ans pour les formations paramédicales. En alternance ou en initiale, devenez un acteur de la santé. Informations sur progrès-santé.com et sur Parcoursup. Progrès Santé, votre avenir professionnel commence ici.
Et toute l'actualité avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, une journée politique tendue qui s'ouvre ce matin en Israël. Les alliés ultra-orthodoxes de Benjamin Netanyahou menacent de le faire chuter. Le Chass et Yahadut HaTorah s'opposent à l'incorporation de plus de religieux dans les rangs de l'armée. Ils doivent soutenir aujourd'hui un projet pour dissoudre la Knesset. Une attaque des Houthis du Yémen hier soir. Les sirènes d'alerte ont retenti dans le centre d'Israël, dans la région de Jérusalem, mais aussi dans le sud de la Judée-Samarie. Le missile s'est fragmenté après l'impact de l'intercepteur. Tzal a donc dû en lancer des supplémentaires pour abattre aussi les débris. Depuis la reprise des opérations militaires à Gaza, il y a 2 mois, les Houthis liés au régime islamique iranien ont déjà lancé 48 missiles et au moins 11 drones d'attaque contre Israël. Les négociations pour la libération des otages. Benjamin Netanyahou a convoqué hier soir une réunion sur le sujet. Y ont participé le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, le chef d'état-major de Tzal et les membres de l'équipe de négociation. Le but, recevoir des mises à jour et discuter des prochaines étapes. L'évocation de progrès par le bureau de Benjamin Netanyahou pourrait signaler une percée dans les pourparlers avec le Hamas. Accueil chaleureux de Benjamin Netanyahou à Javier Milei. Le président argentin affiche sa proximité avec le peuple juif et Israël. C'est déjà sa seconde visite d'État dans le pays en 2 ans. Javier Milei a affirmé que la victoire d'Israël contre le Hamas serait celle de l'Occident. Le président argentin a salué la force de Benjamin Netanyahou dans la gestion de la guerre et exprimé son soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Washington impose des sanctions contre des individus et des organisations caritatives accusées d'être liées au Hamas, des groupes notamment basés en Italie ou en Turquie. Le département d'État américain affirme qu'il utilisera tous les outils à sa disposition pour garantir que l'aide humanitaire à Gaza soit acheminée par des organismes fiables. Par ailleurs, le président Donald Trump aurait refusé à Benjamin Netanyahou des frappes en Iran, alors que le régime islamique doit lui donner sa réponse à Donald Trump à propos d'un accord sur le nucléaire. Antisémitisme en France. C'est ce matin que s'ouvre au tribunal de Nanterre le procès de 3 adolescents qui ont violé une enfant de 12 ans. Ils s'en sont pris à elle lorsqu'ils ont su qu'elle était juive. Le procès se tient à huis clos en raison du jeune âge des prévenus et de la victime. Il doit s'achever à la fin de la semaine. L'enfant victime a changé d'établissement scolaire, mais malgré son traumatisme, elle a choisi de faire face à ses violeurs au tribunal. Aux États-Unis, Donald Trump estime que Los Angeles est envahi par des ennemis étrangers. Le président américain a aussi qualifié d'animaux. Discours cette nuit, donc du chef de la Maison Blanche qui a décidé d'envoyer la garde nationale à Los Angeles à cause de mouvements d'opposition contre l'expulsion de sans-papiers.
Merci beaucoup Eva, on vous retrouve dans un instant sur Radio J.
Le journal de 8h30 vous a été présenté en partenariat avec le Collège Tikva. Collège Tikva, le premier collège trilingue à Boulogne. Renseignements Collège Tikva sur collegetikva.com 01 49 23 73 41. Collegetikva.com. Collège Tikva, parce que chaque élève est unique.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Radio J. Et oui, vous restez avec nous dans quelques instants. L'invité de la rédaction, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. À tout de suite.
Radio J.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravie de vous retrouver tout à l'heure au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Radio J.
Les cultures juives, ça se défend. Et les CUJ aussi. Soutenir les CUJ, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de les CUJ.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/ECUJ. Facile, allodon.fr/ECUJ.
Radio J, le 6-9, Hélène Ferradian.
8h35 minutes, et donc l'invité de la rédaction ce matin, votre micro Eva, c'est Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université Ouverte d'Israël.
Bonjour Denis Charbit.
Bonjour Eva et bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Alors avant de revenir avec vous sur cette journée politique qui s'annonce chargée en Israël, peut-être un mot sur cette fameuse flottille pour Gaza. Greta Thunberg est de retour en Suède ce matin après son expulsion d'Israël. D'après elle, les passagers du bateau ont été détenus séparément. Ils auraient eu des difficultés à contacter des avocats. Et puis en France, la députée LFiste Sophia Chériku a qualifié les passagers de la flottille arraisonnée par Israël d'otages, qualifiés d'otages, les passagers de cette flottille. Pourquoi, d'après vous, cette inversion des choses et qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
Je dirais que ça n'a rien de surprenant et on est toujours dans cette inflation, dans ce mensonge, dans cette imposture qui consiste à prendre des faits réels, des choses dont nous souffrons encore tous les jours. Je pense bien sûr aux otages encore détenus par le Hamas et bien entendu de ne jamais rien en dire, de ne jamais prononcer une parole, même objective, sur le sort de ces otages, et de considérer qu'en revanche, les passagers de la flottille qui ont refusé de partir aussitôt sont des otages. Voilà, je dirais que à quoi sert de s'indigner une fois de plus quand définitivement ces personnes-là ne méritent pas qu'on leur accorde autant d'importance.
Justement, Denis, effectivement, ne méritent pas qu'on leur accorde beaucoup d'importance. En tout cas, elles s'en sont beaucoup accordées lors de ce voyage, avec beaucoup de photos, etc. Le gouvernement israélien a même qualifié cette flottille de yacht selfie. Comment est-ce que on voit ça en Israël ? On se souvient, la dernière flottille, c'était le Mavi Marmara. Dessus, il y avait des islamistes. Ça finit en affrontement avec l'armée israélienne. Il y a eu des morts, des blessés. Là, cette fois-ci, c'était beaucoup plus calme. Et pourtant, les passagers de cette flottille veulent se donner une aura de héros.
Oui, alors je dirais, on a ici une très belle démonstration, 15 ans après, des conséquences que l'on tire d'une opération qui s'était mal terminée, puisqu'il y avait eu des morts du côté des passagers turcs de cette flottille, et ça n'a pas fait du bien aux relations turco-israéliennes. Israël avait dû ensuite payer des dommages et intérêts, des compensations financières, etc. Vous savez, chaque fois qu'il se passe un incident grave, on termine toujours en disant « nous allons en tirer les conséquences, nous allons en tirer les leçons ». Et je pense que pour les Israéliens, la première chose qu'ils ont retenue, c'est que effectivement, on n'est pas obligé d'avoir la gâchette facile. Vraisemblablement, on était informé sur le fait qu'aucun des passagers ou des passagères de cette flottille n'avait d'armes, ce qui n'était pas le cas dans le cadre de la Marmara. En tout cas, les deux leçons qui ont été tirées, vous avez remarqué que ce n'étaient pas des soldats de commando maritime qui ont été chargés de l'opération, mais des soldats. Et je dirais qu'il y a ici une sorte de pied de nez, une sorte de, comment dirais-je, de clin d'œil, puisque de manière générale, Greta Thunberg et Mahassan mettent en avant le fait que ce sont des femmes politiques, que ce sont des femmes qui ont de l'autorité, du leadership. Ce sont des femmes qui sont occupées de leur sort. Il faut dire aussi autre chose. En Israël, personne ne connaît Rima Hassan. Hein, contrairement à la France, c'est normal, en France, elle est députée européenne. En Israël, elle ne compte pas. Bien sûr, ce n'est pas le cas de Greta Thunberg, puisque, voilà, personne, ça n'a échappé à personne qu'elle avait été, il y a quelques années, à la tête du combat pour
le climat.
Contre le climat, voilà, crise climatique ou changement climatique. Voilà. Mais encore une fois, je crois que l'essentiel qui a été retenu, c'est effectivement la capacité de faire ça bien et sans accroc. Et donc, du coup, ben voilà, ça n'a pas de conséquences sur les relations franco-israéliennes qui sont jamais trop faciles depuis quelque temps. Mais voilà, en tout cas, on n'a pas ajouté un dossier de plus au dossier qui sépare les deux administrations. Et puis, voilà. Après, alors, toutes les manières d'en parler, on a pensé à un moment leur montrer le film du 7 octobre, etc. Finalement, ça n'a pas été fait. Toutes ces expressions un peu...
Apparemment ils auraient refusé, d'après ce qui est
dit. Oui, ils auraient refusé, effectivement. Mais je dirais que parfois, et ça, on n'est pas toujours très bon là-dessus, il faut faire preuve d'un peu de retenue. Voilà. Ne pas, comme je le disais tout à l'heure, ne pas accorder trop d'importance, ne pas tomber dans leur jeu, parce que bien entendu, ensuite, ils vont se servir de ce qu'ils vont dire, de ces déclarations, etc., des déclarations qui vont être faites. Non, il faut prendre un peu de hauteur.
C'est un événement un peu sans importance.
Exactement, c'est un micro-événement. C'est un micro-événement parce que il s'est bien terminé. C'est sûr que si ça s'était passé autrement, si l'arrestation des membres de la flottille avait conduit à un exercice de violence réciproque avec des blessés, c'est sûr que ça aurait eu le même effet que la Marmara. Là, alors, non, on a fait ça comme il faut. Et tant mieux d'ailleurs, je sais qu'il y en a qui auraient voulu que ce soit encore plus musclé. Non, ce n'est pas notre intérêt. Notre intérêt, c'est de montrer qu'on sait faire les choses avec, fermeté, mais sans débordement.
Denis, il y a des tensions diplomatiques entre le gouvernement israélien et des pays occidentaux en perspective, parce que notamment la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège veulent imposer des sanctions à Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, les deux ministres d'extrême droite du gouvernement israélien. Ils les accusent d'incitation à la violence contre les Palestiniens qui a, je cite, conduit à des violences et à l'expulsion de leur foyer. Là-dessus, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sar, qualifie de scandale la décision d'imposer des sanctions à Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Ça, c'est au niveau diplomatique. Vous, votre regard d'Israélien là-dessus, parce qu'on le voit dans les manifestations qui ont lieu régulièrement dans la rue en Israël et où il y a de plus en plus de gens, notamment le week-end, on dénonce aussi les propos d'Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich.
Ah, que vous dire, Eva, si ce n'était que des propos. Ce ne sont pas des propos, ce sont des politiques, ce sont des actes. On a annoncé aujourd'hui, je crois, le 110e palestinien citoyen israélien qui a été assassiné au sein de la population arabe. Aucune arrestation, aucune politique n'est mise en place. Donc là, c'est de la vraie politique. Et pour ce qui est de la Cisjordanie ou de la Judée-Samarie, à l'ombre de ce qui se passe à Gaza, on n'en parle pas assez. C'est une annexion qui n'est plus seulement rampante aujourd'hui. Alors, très sincèrement, je vais vous dire que pour une fois, je n'ai pas l'obligation de réserve qui consiste à m'émouvoir des sanctions qui sont portées contre Bezalel Smotrich et contre Itamar Ben-Gvir. Je rappellerai d'ailleurs que...
Vous trouvez que c'est des bonnes décisions ?
De bonnes décisions. C'est symbolique, c'est pas grand chose, mais je rappellerai que les institutions juives en France, comme en Grande-Bretagne par exemple, ne reçoivent pas Bezalel Smotrich, ne recevront pas Itamar Ben-Gvir. Alors si les communautés juives le font, je vois pas pourquoi les gouvernements devraient le faire. Voilà. Ce sont pas des gens respectables. Ce sont eux qui aujourd'hui ont réussi à faire dévier cette guerre légitime, ultra légitime qu'a mené Israël depuis le lendemain du 7 octobre et qui la font dévier vers quelque chose dans lequel beaucoup d'Israéliens ne se retrouvent plus parce que eux, à la différence de beaucoup de gens à droite, au centre, où on sait pas trop ce qu'on veut, on sait pas trop comment faire, eux, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et il faut arrêter de les prendre pour des extrémistes, des illuminés. C'est eux qui donnent le ton aujourd'hui. Et donc, à cet égard, je vais dire que dans le meilleur des cas, je reste neutre vis-à-vis des décisions qui ont été prises par le Canada, l'Australie et quelques autres pays, en la Norvège.
On parle aussi beaucoup de cette journée politique qui s'annonce. Les ultra-orthodoxes envisagent de faire tomber peut-être le gouvernement Netanyahou. En tout cas, deux partis qui représentent les Haredim s'opposent à l'incorporation de plus de religieux dans les rangs de l'armée. Seulement, voilà, il y a des tractations qui sont en cours. Benjamin Netanyahou essaye de faire durer les choses. S'il y avait des élections aujourd'hui, d'après tous les sondages, il ne serait pas réélu et les partis orthodoxes eux-mêmes ne seraient pas certains d'atteindre le seuil d'éligibilité. Alors, ça veut dire quoi tout ce barouf ?
Vous avez raison d'employer l'expression barouf, j'aime beaucoup. Écoutez, que ceux qui aiment Netanyahou ne s'inquiètent pas et que ceux qui ne l'aiment pas trop ne se réjouissent pas de manière prématurée. C'est une comédie politique dont la coalition est riche. D'autant que, je le rappelle, il y a un vote aujourd'hui, même si le parti Agudat Israël au sein du Judaïsme de la Torah avec le Chas vote la dissolution de la Knesset et qu'il y a 60 contre 60, ou plutôt 61... ça ne veut rien dire dans la mesure où c'est un vote préliminaire. Il y a encore une première, une deuxième et une troisième lecture. Netanyahou parviendra à faire tenir ça jusqu'au mois de fin juillet. En juillet, c'est les vacances parlementaires. Ça veut dire qu'on se retrouvera au mois d'octobre pour discuter de la seconde et de la troisième. Et là, comme on sera à un an des élections, il n'est pas exclu qu'on décide d'une date. La seule chose que je voudrais dire encore, c'est que oui, je regrette qu'il n'y ait pas dissolution de la Knesset. Pour une raison très simple, c'est que s'il y a des élections dans les 3 mois, alors il est à peu près certain que la négociation pour la libération des otages aboutira. Parce que Netanyahou voudra arriver au moins dans la nouvelle compétition électorale avec la libération de tous les otages. Donc oui, c'est vrai, il faudrait que le vote soit entériné aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait deuxième lecture et troisième lecture aujourd'hui ou demain pour savoir qu'on a des élections dans 3 mois et qu'importe qui gagnera, Netanyahou ou l'opposition, ce qui comptera à ce moment là, c'est que les otages seront à coup sûr libérés et n'ayez aucun doute là-dessus, je parie et vous me reprendrez à l'antenne pour voir si mon pari est justifié.
C'est ce qu'on fera, Denis Charbit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J et bonne journée à vous. Merci.
Radio J.
Radio J. Le 6-9. Hélène Aferradian.
Il y a des mélodies qu'on fredonne sans même savoir d'où elles viennent. Un refrain de La Belle et la Bête, quelques notes d'Aladin ou ce fameux Partir là-bas de La Petite Sirène. C'est féerique, des chansons qui ont bercé des générations d'enfants. Et derrière cette magie musicale, il y a justement un homme, un compositeur au nom discret mais au talent immense, Alan Menken. On en parle ce matin avec vous, Caroline Amouyal, dans Ce que le monde doit aux Juifs. Bonjour.
Oui, bonjour Ilana. Tout en musique ce matin, on s'intéresse à un homme dont justement la musique a façonné l'univers de Disney à partir des années 90. Alan Menken, c'est l'un des compositeurs les plus récompensés d'Hollywood. 8 Oscars à lui tout seul, il en a même plus que John Williams. Et pourtant, il n'a jamais cherché la lumière. Il s'est toujours contenté d'illuminer celle des autres.
Mais alors, d'où vient cet homme qui a fait quand même chanter et qui continue à faire chanter le monde entier ?
Alan Menken, il naît le 22 juillet 1949 à New Rochelle, dans l'État de New York, dans une famille juive d'origine russe et polonaise. Il a un frère et une sœur, son père est dentiste, passionné de piano, sa mère, elle est actrice amateur. Autant dire que le mélange est explosif. Très tôt, Alan baigne dans la musique classique, les comédies musicales et les grandes partitions de Broadway. Il apprend le violon, puis se tourne très vite vers le piano et la composition.
Il a toujours voulu être compositeur.
Alors, pas vraiment au départ. Alan Menken se rêvait chanteur ou auteur-compositeur de folk dans la veine de Bob Dylan. Mais après des études de musique, il comprend que son vrai talent, c'est d'accompagner les histoires. Il commence alors à écrire pour le théâtre musical et en 1979, il fait une rencontre décisive, Howard Ashman, un parolier avec qui il va former un duo magique.
Ah oui, le duo à l'origine de La Petite Sirène.
Et oui, exactement. En 1982, il crée d'abord La Petite Boutique des Horreurs, qui séduit à Broadway. Leur style drôle, accessible, moderne, séduit les studios Disney alors en pleine crise créative. Et en 1989, le duo relance la machine à rêve avec La Petite Sirène. C'est un succès planétaire. Puis viendront La Belle et la Bête, Aladdin et même Le Bossu de Notre-Dame ou Hercule. Des classiques.
Bah oui, cependant, Howard Ashman Ashman, donc son associé, son allié, meurt du sida en 1991.
Oui, et Menken est dévasté. Il poursuivra toutefois l'aventure Disney avec d'autres paroliers, mais toujours dans le même esprit, raconter des histoires avec des émotions fortes et des mélodies inoubliables. Il composera aussi pour Pocahontas et Réponse. Il était une fois, et même le remake en live de La Belle et la Bête en 2017. Alan Menken, c'est la bande-son de notre enfance et de celle de nos enfants.
Absolument. Alors, et sur le plan personnel, parce que, donc, on ne l'a pas encore dit, Alan Menken est juif, il est né dans une famille juive. Quel est son rapport au judaïsme et à Israël ?
Alors, Alan Menken, il revendique son identité juive sans être strictement pratiquant. Il a grandi dans une tradition culturelle juive new-yorkaise, très marquée par la musique, la famille et l'éducation. Et dans plusieurs interviews, il parle de la valeur du Tikkun Olam qu'il applique à sa façon, en offrant beauté et sens à travers la musique. Et concernant Israël, il a soutenu plusieurs initiatives artistiques et éducatives tournées vers la jeunesse, mais il reste discret sur les questions géopolitiques. Ce qu'il défend, c'est l'idée d'un lien communautaire fort, ouvert sur le dialogue et la culture. Sa musique est d'ailleurs régulièrement joué en Israël dans les conservatoires et les théâtres.
Alors, quelle est son actualité à Alan Menken ces dernières années ?
Eh bien, écoutez, il a eu pas mal de prix. Hein. En 2020, il a obtenu un Emmy Award pour la chanson d'une série animée, devenant ainsi l'un des rares artistes à avoir remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony Award, ce qu'on appelle un EGOT. Alan Menken continue de composer, d'encadrer des jeunes artistes et de collaborer sur des projets Disney. Sa musique traverse les générations sans prendre une ride.
C'est magnifique. Et d'ailleurs, il était, je crois, il y a quelques temps dans l'émission C'est à vous, voilà, sur France 5. Et il a pu, au piano, émerveiller, je crois, l'animatrice et les chroniqueurs. On va peut-être justement écouter un petit bout. Merci beaucoup, Caroline.
Merci, Lana,
pour ce portrait musical et inspirant. Ça nous ramène en enfance.
Them 40 thieves, Shahrazadi had 1,000 tales. Mr. You in luck, cause up your sleeve, you got a brand of magic never fails. Mr. Aladdin, sir, what will your pleasure be? Let me take you on a China down, you ain't never had a friend like me.
Alan Menken en live sur le plateau de C'est à vous sur France 5. Merci Caroline et je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Et la chronique, c'est bon pour la santé, parce qu'il n'y a pas que la musique aussi qui est bonne pour la santé, mais le fait de bouger. Et on va en parler avec le docteur Serge Raffal. Bonjour docteur.
Bonjour Ilana, oui, votre rubrique précédente arrivait tout à fait à propos.
Tout à fait à pic, effectivement, de la musique pour danser, pour bouger, puisque vous avez évoqué hier déjà les dangers de la sédentarité et expliqué les nombreuses raisons peu rationnelles, voire ataviques, qui incitent au moindre effort. Mais vous ne vous découragez pas pour autant. C'est ainsi que vous désirez revenir ce matin sur la quantité d'activité physique souhaitable pour rester en bonne santé. L'objectif ultime de notre chronique quotidienne, c'est d'ailleurs peut-être le bon moment pour s'y mettre, car les belle journée de juin incite à bouger plus.
C'est exactement cela, Ilana. La sédentarité, dont l'étymologie, le mot latin sédère, être assis, correspond à du temps vraiment immobile, assis devant la télé, un bon bouquin, des mots croisés ou fléchés, la presse quotidienne, et surtout, maintenant, les divers écrans. J'ai expliqué hier qu'elle gagnait du terrain partout dans le monde, et bien sûr chez nous, que les trois quarts de la population française passaient plus de 8 heures par jour dans une position assise, certes confortable, mais excessivement statique et clairement nocive pour la santé. J'ai rappelé qu'elle était responsable, d'après l'OMS, d'environ 5 millions de décès par an, soit d'une vie perdue toutes les 6 à 8 secondes par maladie cardiovasculaire, métabolique, neurodégénérative, et même par cancer, surtout lorsqu'elle s'accompagnait d'une mauvaise hygiène de vie, malbouffe, tabac, alcool, qui potentialise évidemment les risques statiques.
Alors que l'activité physique, elle, faut-il le rappeler, est vite bénéfique.
Bien sûr, et activité physique, ça n'est pas nécessairement dans mon esprit, activité sportive de compétition, en short, en survêt, avec le nouveau maillot du PSG, les dernières pompes Jordan ou Nike, de Sinner ou d'Alcaraz. J'intègre à l'activité physique les tâches domestiques, les courses du quotidien, la montée et la descente des escaliers, le jardinage, les déplacements à pied ou à vélo. Sa pratique régulière améliore les fonctions cardiovasculaires et respiratoires, prévient l'ostéoporose, limite les risques de maladies chroniques liées ou non à l'âge.
Alors concrètement, on va parler chiffres, hein. Quelles sont, Serge, les recommandations officielles anti-sédentarité ?
Pour un enfant, c'est une heure d'activité physique d'intensité modérée à élevée chaque jour, tout en limitant le temps d'écran. C'est peut-être le plus difficile à réaliser actuellement, tant ceux-ci sont intégrés à leur mode de vie. Pour un adulte d'âge moyen, c'est 30 minutes, voire plus, d'activité physique d'endurance, d'intensité modérée à élevée, c'est-à-dire pendant laquelle on peut parler mais pas chanter, et ça au moins 5 jours par semaine. On parle de 150 minutes minimum, accompagné d'exercices de renforcement musculaire, 1 à 2 fois par semaine, et d'assouplissement, 2-3 fois également. Le Pilates est à juste titre très en vogue actuellement. Et en parallèle, il est conseillé et même fortement recommandé de ne pas rester assis plus d'une heure d'affilée sans se dégourdir les jambes au moins 5 minutes par quelques mouvements de gym, et pas seulement pour aller chercher une petite douceur dans le frigo. Ce que j'ai appelé hier une petite récré obligatoire, comme les élèves en classe. Pour les personnes plus âgées, la marche quotidienne, alors c'est 3000, 6000, 7000 pas par jour, les chiffres varient selon les sources et l'état de santé, associés à des activités d'équilibre et de renforcement musculaire sont conseillés, 2-3 fois par semaine, voire plus, afin de réduire les risques de chute, souvent graves chez les personnes les plus âgées.
Et il y a un moment aussi de la journée qui est à privilégier pour faire du sport?
Ben ça, on peut répondre. Là, une grande revue qui a été publiée récemment par des chronobiologistes américains nous explique qu'aucun moment de la journée n'a fait la preuve d'une quelconque supériorité, qu'il fallait par conséquent juste bouger, quel que soit l'horaire. Peut-être éviter les activités physiques trop violentes en soirée, car elles sont préjudiciables, non pas au système cardiovasculaire, mais à la qualité du sommeil.
Et il existe, semble-t-il, des disparités socioculturelles dans la sédentarité et l'inactivité physique?
Oui, les dames sont plus sédentaires globalement que les messieurs. Elles sont minoritaires dans les sports collectifs. Elles sont sous-représentées en compétition. Les enfants et ados d'un ménage CSP+ sont plus actifs que les moins ou les peu diplômés. La sensibilisation et les messages à l'intention des plus jeunes et des dames devraient donc tenir compte de ces considérations et de l'environnement afin de proposer des recommandations adaptées, individualisé et vraiment suivi des faits.
Et qu'est-ce qu'on peut dire alors en conclusion, Serge, à propos?
Vous l'avez compris, Ilana, bouger est essentiel pour gagner des années de vie en bonne santé. La sédentarité constitue, nous le savons maintenant avec certitude, un facteur de risque majeur à combattre autant, voire plus énergiquement que la malbouffe, l'alcool, le tabac. C'est dire la difficulté de la tâche. Alors, je vais citer Sénèque pour terminer, qui dans un aphorisme célèbre nous explique que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles le deviennent. Alors, osons bouger.
Eh bien, merci beaucoup, Serge Raffa, le docteur de Radio J. Osons bouger. Vous avez entendu, j'espère. Il faut faire du sport, effectivement. Merci beaucoup, docteur. On vous retrouve, eh bien, demain matin, toujours avec autant de plaisir. À demain.
Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre ce matin. C'est déjà la fin de cette première édition que vous pouvez retrouver évidemment sur notre chaîne YouTube et en podcast sur radioj.fr. Le Festival des Cultures Juives revient par ailleurs, une information pour vous, à partir de ce dimanche et jusqu'au 30 juin prochain à Paris. On aura l'occasion d'en parler pour célébrer 2 décennies de découvertes, de transmissions, de créations. Le Festival des Cultures Juives revient donc avec une édition exceptionnelle et une programmation riche de 26 événements pluridisciplinaires dont de nombreuses créations originales. Faut le rappeler, hein, né en 2005 dans le quartier du Marais, le festival est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable réunissant les générations autour de la diversité, de la richesse et de la vitalité des cultures juives, des synagogues au théâtre, en passant par les archives nationales et la Cité internationale des arts. Laissez-vous emporter par un voyage artistique, intellectuel et sensible au cœur des cultures juives d'hier et d'aujourd'hui. Et qui de mieux pour ouvrir ce festival que le musicien que vous êtes en train d'écouter, le contrebassiste Avishai Sacha et Cohen, puisqu'il se produira effectivement ce dimanche au théâtre du Rond-Point pour un concert axé sur son nouvel album Bright Light. Voilà ce qu'on pouvait dire. On continuera évidemment à parler du festival dans les prochains jours, puisqu'il y a beaucoup d'événements. Vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places, la billetterie ouverte sur le site du Festival des Cultures Juives. Bonjour Léa.
Voilà, joli rendez-vous. Bonjour Ilana. Voilà.
Écoutez, bonjour à tous. On est là pour donner les mauvaises nouvelles, mais aussi les bons rendez-vous.
Absolument, il ne faut pas louper ce festival. C'est un bonheur. Bon, alors je vous retrouve, moi, dans quelques secondes.
Bah oui,
le 9-10.
Avec grand plaisir. C'est quoi? C'est pas le jour des rabbins aujourd'hui?
Alors, c'est pas le jour des rabbins, mais on voyage beaucoup. On va parler de juifs à l'extérieur.
De juifs?
Eh oui. Comme par hasard, j'allais dire, hein, pour changer. Et nous partons en Israël avec Laurent Ganassia, notamment.
Eh bien, écoutez, on a hâte d'entendre ça. Merci beaucoup, Léa. À tout de suite.
À tout de suite.
Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05, et c'est uniquement sur Radio J.